Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Mamadou Oumpa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons au cancer du sein, une maladie qui, dans certains cas, se manifeste par des douleurs au niveau de la poitrine.
J'ai commencé à sentir des sortes de douleurs au niveau des seins. Je ne voulais pas croire au cancer des seins. Et quand les douleurs commençaient à devenir intenses, alors je me suis dit que ça valait la peine que j'aille voir un médecin.
Des spécialistes avertissent qu'en 2030, le nombre de femmes victimes du cancer du sein pourrait doubler pour atteindre 3,2 millions par an. Nous essaierons de comprendre pourquoi.
C'est dû à des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques, des facteurs socio-économiques. Ça veut dire que c'est largement lié à la vie reproductive de la femme et aux modes de vie qui ont changé.
Dans cette édition, nous écouterons également la présidente d'une association raconter son combat contre le cancer du sein. Et comme toujours, notre docteur Amon Genka a répondu à vos questions. Mais pour commencer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Et cette semaine, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Kouyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Mamadou.
Commençons par le nord-est du Nigeria, où le paludisme est devenu la maladie la plus meurtrière.
Oui Mamadou, selon les estimations de l'OMS, chaque semaine, environ 8500 personnes sont infectées par la maladie dans l'état de Borno. Et durant la saison de forte transmission du paludisme qui se poursuit jusqu'en octobre, l'OMS prévoit une augmentation de ces chiffres. Pour comprendre l'ampleur de la maladie, il faut se rappeler que cet état fait face à une insécurité depuis plus de 8 ans. Conséquence, plus de 60% des structures de santé ne fonctionnent que partiellement et de nombreuses personnes n'ont pas eu accès à des services de santé réguliers, y compris la vaccination systématique et aux médicaments de base. Outre les problèmes en matière de sécurité, la malnutrition aiguë causée par l'insécurité alimentaire s'accroît dans certaines zones de l'État.
Et d'ici le mois de novembre, plus de 10 000 personnes peuvent être sauvées si la riposte est efficace.
C'est en tout cas la conclusion d'un rapport d'experts sur le paludisme. Selon ces experts, plus de 10 000 cas de décès pourraient être évités si un ensemble d'initiatives de base est entrepris. Ces initiatives se déclinent en quatre axes, à savoir renforcer les systèmes de surveillance pour suivre les cas, élargir l'accès aux soins dans les dispensaires et les établissements de santé, pulvériser des insecticides et distribuer des moustiquaires, et enfin administrer des antipaludiques aux enfants de moins de 5 ans chaque mois. 2,5 millions de dollars sont requis pour cette intervention d'urgence.
Parlons encore du paludisme avec le laboratoire pharmaceutique Novartis qui va tester un nouveau médicament contre la maladie.
Le laboratoire pharmaceutique Novartis lance des essais cliniques pour un nouveau traitement contre le paludisme, le KAF-156. Le laboratoire pharmaceutique suisse travaille actuellement sur la deuxième phase de son programme d'essai avec le groupe Medicine for Malaria Venture, MMV. Novartis cherche ainsi à s'attaquer au problème de la résistance du paludisme aux médicaments existants. Les tests initiaux suggèrent que le KAF-156 a le potentiel de soigner rapidement le paludisme, y compris lorsque les souches sont résistantes. Ce candidat médicament permet de bloquer la transmission du parasite du paludisme depuis le moustique.
Mais alors Firmin, où en est-on exactement avec les essais cliniques?
Ce nouveau programme d'essai clinique a commencé début août au centre de formation et de recherche sur le paludisme de Bougoula à Mo au Mali. Le programme devrait se poursuivre dans les mois qui suivent à travers 16 centres situés dans 9 pays en Afrique et en Asie. L'étude clinique a démarré chez les adultes atteints de paludisme. Mais comme les enfants sont les plus vulnérables face au paludisme, le but est de les inclure dans l'étude le plus rapidement possible après validation des données de sûreté obtenues chez les adultes. Ceci afin d'accélérer le développement d'une formulation pédiatrique du candidat médicament.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Lutte contre le cancer du col de l'utérus au Sénégal, l'on s'achemine vers la gratuité du vaccin.
Selon les autorités sénégalaises, en 2019, le Sénégal va procéder à la vaccination gratuite contre le cancer du col de l'utérus de toutes les filles âgées de 9 à 14 ans. En fait, le Sénégal a fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus l'une des priorités de son programme national de développement sanitaire. Déjà, depuis 2014, le vaccin a été expérimenté dans deux districts sanitaires, les districts de Meke et de Philippe Maguilène Senghor. Pendant cette campagne de vaccination menée avec le concours de l'Alliance Gavi, le vaccin est gratuit. Or, au Sénégal, une dose de ce vaccin coûte 18 000 francs CFA et il en faut deux par fille. En 2019, donc, les autorités espèrent étendre le vaccin gratuit à tous les districts du Sénégal.
Mais au fait, Firmin, pourquoi les autorités ciblent-elles les filles de 9 à 14 ans?
D'après le docteur Aliou Diallo, conseiller au programme élargi de vaccination de l'OMS au Sénégal, la cohorte de 9 ans a été choisie parce que quasiment 90% de cette cible se trouve à l'école primaire et cela permet de ne pas se disperser à toucher les autres cibles qui risquent de surélever les besoins en vaccins qui sont assez chers. Toujours selon lui, le programme s'arrange à vacciner en novembre pour la première dose et faire la deuxième dose 6 mois après, en mai, avant la fin de l'année scolaire. Ajoutons, Mamadou, que certaines données scientifiques montrent que la réponse immunitaire est meilleure lorsque le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est administré avant 15 ans.
Merci Firmin.
Et votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons du cancer du sein. C'est le premier type de cancer chez les femmes. Plus de 500 000 femmes en meurent chaque année dans le monde. Plus grave encore, des spécialistes avertissent que d'ici 2030, le nombre de femmes diagnostiquées du cancer du sein pourrait presque doubler pour atteindre 3,2 millions par an. La multiplication des cancers, dont celui du sein, s'explique par l'augmentation des facteurs de risque de cancer connus liés à la transition économique rapide, comme l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des facteurs reproductifs, comme par exemple le fait de procréer à un âge tardif. C'est ce que nous a expliqué notre invité de la semaine, le docteur Adama Lee, et cancérologue et président de l'association Afro-Cancer. Nous l'avons contacté depuis Paris pour en savoir davantage sur la maladie. Tout d'abord, il nous explique que le cancer du sein est devenu un véritable problème de santé publique.
En effet, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, aussi bien au niveau mondial qu'en Afrique. Dans le monde, on enregistre chaque année plus d'1,6 million de nouveaux cas de cancer du sein. Et les chiffres sont aussi alarmants en Afrique, hein, on compte 135 500 nouveaux cas de cancer, c'est-à-dire 28% des cas de cancer en Afrique sont des cancers du sein. Donc des chiffres qui sont vraiment en très forte progression.
Alors comment expliquer que ce cancer soit le plus fréquent de tous les types de cancers?
Alors, cela tient à plusieurs facteurs hein, qu'on incrimine. D'abord, le cancer, c'est une pathologie qui est multifactorielle, mais on retient souvent que c'est dû à des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques, des facteurs socio-économiques. Ça veut dire que c'est largement lié à la vie reproductive de la femme et aux modes de vie qui ont changé.
Alors, on va développer cela plus en profondeur un peu plus tard. Quels sont les signes d'alerte qui peuvent permettre à la femme de s'inquiéter, de soupçonner qu'elle pourrait être victime de ce type de cancer?
Alors, vous avez raison de parler de ces signes cliniques, de ces symptômes qui sont importants et qui sont souvent variables selon les femmes. Mais les plus fréquents, les plus communs qu'on observe sont d'abord l'écoulement anormal de lait ou de sang, qu'on voit parfois, les transformations de la peau du sein, ce qu'on appelle les peaux d'orange, donc ou pour capitonner, on va dire qu'il y a des micro-trous qui sont au niveau du sein et sur la peau. Et ça, c'est des signes cliniques qui doivent alerter. Il y a ce qu'on appelle l'inversion du mamelon, donc le téton qui doit pointer à l'extérieur du corps et qui, en cas de maladie, va à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est vraiment des signes cliniques qui doivent alarmer. Et l'autre qui est tout le temps présent, c'est la présence de grosseurs ou de nodules à l'intérieur du sein et qui parfois c'est palpable. On espère qu'on n'attend pas que la grosseur soit palpable pour les détecter. Donc ça, ce sont les signes les plus fréquents qu'on voit chez la femme.
Alors, le cancer du sein se déclare-t-il majoritairement chez les femmes après la ménopause ou un peu plus tôt? Expliquez-nous un peu comment ça se passe.
Alors, vous avez raison, mais la fréquence devient progressive entre 30 et 60 ans. Donc, il y a une progression de 30 à 60 ans, donc des chiffres du cancer. Mais la majorité des cas de cancer du sein sont en effet détectés après 50 ans. Donc, l'explication qu'on donne, c'est que la cancérogénèse, c'est un processus qui est long.
Donc, en général, ce qu'on voit, ce que la femme constate, les symptômes arrivent quand le cancer s'est déjà assez développé.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a des mutations qu'on appelle des mutations à l'intérieur des gènes qui changent. Donc d'expression, et ces mutations prennent beaucoup de temps pour avoir ces conséquences qui sont visibles. Donc ce sont des changements au niveau des molécules, au niveau des cellules, donc qui se transforment à l'intérieur du corps sans qu'on puisse voir quelque chose ou sans que ce soit détectable. Mais au cours du temps, donc ça donne les conséquences néfastes qu'on voit au niveau du sang et qui sont alarmantes. Donc c'est pour ça qu'on donne ces conseils de comment faire pour éviter, pour s'auto-surveiller, pour voir les seins, les difficultés le plus tôt possible.
C'est justement la question que je m'en vais vous poser. Comment faire pour s'auto-surveiller, comme vous dites, et pour éviter éventuellement ce type de cancer? C'est la question que toutes les femmes se posent.
Voilà, vous avez raison. Donc ça, ce sont des causes qui sont assez communes. Donc il y a les facteurs de risque, comme on appelle, qui sont communs à tous les types de cancers, qui vont même au-delà, qui peuvent concerner aussi les maladies cardiovasculaires ou les diabétiques. Donc ces types de facteurs de risque sont le tabagisme. Donc vous avez l'excès d'alcool, l'alimentation qui est déséquilibrée, qui est pauvre en fruits et légumes, l'excès de sel, de sucre ou de graisse, et l'absence d'activité physique ou la sédentarité, le surpoids ou l'obésité. Donc ça, ce sont des facteurs de risque qui sont évitables. Et on conseille à toutes les femmes, les hommes aussi, de faire attention à ces différents types de risques qui peuvent conférer donc à le développement de certains types de cancers. Ensuite, vous avez des risques qui sont spécifiques au cancer du sein. Ce sont des risques qui sont moins évitables, mais qui demandent des surveillances. Ce sont les règles précoces, les ménopauses tardives, la maternité qui est tardive ou la nulliparité, c'est l'absence de maternité. Vous avez aussi d'autres types de risques comme les traitements par contraception ou le traitement de la ménopause. Donc ça, ce sont des risques qui sont moins évitables et qui demandent beaucoup de surveillance, souvent par mammographie. Donc on conseille aux femmes qui sont dans ces cas, dans ces facteurs de risque, de se surveiller. Et là, c'est même plus la palpation ou l'autre, d'aller faire carrément les mammographies pour essayer de détecter précocement les cas de cancer. Vous avez un dernier type de risque, donc pour ces cancers de sein, qu'on appelle les cancers familiaux. Donc vous avez des gènes à l'intérieur qu'on hérite de sa mère, de la famille, et donc qui sont là et qui vous prédisposent à des cancers de sein. Donc ce sont des cancers qui sont de l'ordre de 5 à 10% des types de cancers. Et pour ça, il y a un suivi médical à long terme. On fait des analyses oncogénétiques, on va confirmer la présence d'un ou de deux gènes. Les gènes qui sont impliqués, ce qu'on appelle des gènes BRCA1 ou BRCA2. Donc ça, c'est des gènes qu'on essaie de faire des biopsies et voir au niveau du gène est-ce que ces gènes sont présents ou pas. Donc c'est à confirmer ou à infirmer. Et que dans ce cas, donc on parle de cancer héréditaire, cancer du sein héréditaire chez la femme.
D'après nos enquêtes auprès de certaines associations, on a appris que certaines femmes guérissent du cancer et évidemment d'autres en meurent. D'abord, comment est-ce qu'on guérit du cancer et est-ce qu'il y a des recettes pour guérir de ce type de cancer?
Alors c'est très bien de le souligner que quand même malgré les décès qui sont importants en Afrique, le cancer du sein est un cancer qui est guérissable, qui est curable, à condition d'être détecté très tôt. Donc ça, j'insiste, il faut vraiment que le cancer soit détecté très tôt. Et pour cela, il y a des outils, il y a les recettes, comme vous dites, mammographie, il y a l'autosurveillance, évidemment, mais on préfère les détecter à des stades qu'on appelle infracliniques. Ça veut dire que l'œil ne peut pas le voir, il n'y a pas de signes cliniques visibles. Et donc, pour ça, il faut faire des mammographies. Donc, on conseille les femmes qui sont à risque familial, c'est tous les ans. Et pour les autres cas, c'est tous les deux ans si la première n'a pas montré le risque avéré. Donc ça, c'est vraiment les bons comportements à avoir. Mais quand on est déjà malade, le bon comportement à avoir, c'est d'abord de débuter un traitement médical le plus tôt possible. C'est vrai que les traitements sont longs, sont coûteux, c'est difficile. Et pour cela, évidemment, il faut avoir un suivi médical. Donc être à côté de son médecin, l'écouter et surtout ne pas arrêter le traitement en cours de route parce qu'il y a des effets secondaires ou parce que ça coûte cher, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Et pour ça, je pense qu'il faut un soutien familial, psychologique pour encourager les malades à tenir pendant la durée du traitement.
Justement, parlons du traitement. Comment ça se passe concrètement le traitement du cancer du sein? Est-ce que en Afrique déjà, on a des centres de traitement ou des professionnels qui peuvent traiter cette maladie? Et vous avez dit que ça coûte cher. Est-ce qu'on peut avoir une estimation?
Voilà, ça coûte cher, ça dépend du type de cancer. Là, j'allais parler un peu de l'efficacité thérapeutique, parce que ça dépend aussi du type de cancer. Il y a des cancers de sein qui sont très agressifs, qui peuvent métastaser, d'autres qui vont résister au traitement. C'est pour ça qu'on voit des femmes qui guérissent très vite, là, parce que c'est pris très tôt et le traitement marche. Des femmes qui guérissent moins vite ou à très très long terme, parce que c'est le type de cancer qui résiste, qui métastase, qui est très agressif, qui font que donc il y a des variations dans les résultats qui sont obtenus.
Et on va terminer par cette question. Le cancer du sein affecterait aussi les hommes. Est-ce que c'est vrai et pourquoi il n'est pas aussi fréquent que chez les femmes?
Oui, c'est vrai que c'est un cancer qui peut affecter les hommes, mais qui les touche très très rarement. 1% des cas de cancer du sein seulement peuvent toucher les hommes. Et l'explication qu'on donne, c'est évidemment que le sein est un organe qui est peu développé chez les hommes, contrairement aux femmes. C'est aussi un organe qui est peu sollicité pendant la vie reproductive de l'homme. Donc le sein ne participe pas à la physiologie de la reproduction chez l'homme, et donc qui n'est pas imprégné par les hormones comme on voit chez la femme. Donc si tout ceci fait que chez l'homme, le sein est un peu plus préservé que chez la femme.
Nous remercions le docteur Adam Ali qui nous répondait depuis Paris, en France.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Le cancer du sein tue chaque année, mais de nombreuses femmes connaissent encore mal la maladie. Alice Kavira Mwindapoulé est l'une des victimes. Malgré l'apparition des premiers signes, des douleurs au niveau du sein, elle a eu du mal à admettre qu'elle pouvait être malade du cancer du sein. C'est lorsque les douleurs sont devenues plus vives et persistantes qu'elle a consulté un médecin. Cette femme d'une trentaine d'années, mariée et mère de 3 enfants, vit aujourd'hui sous traitement. Elle a accepté de nous en parler. Elle est au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu en RDC, Erika Smouzi.
Moi, c'est Kavira Mwindapoulé Alice.
Quels signes vous avez alerté sur votre maladie et comment avez-vous su que vous souffriez du cancer des seins?
J'ai commencé à sentir des sortes de douleurs au niveau des seins. J'avais du mal à aller chez le médecin parce que je me disais que parfois il y a des douleurs qui viennent et qui passent et puis je ne voulais pas croire au cancer des seins. Et quand les douleurs commençaient à devenir intenses, alors je me suis dit que ça valait la peine que j'aille voir un médecin pour ça.
Alors, avez-vous une idée sur les raisons qui ont permis à la maladie de vous atteindre?
Vraiment, je n'ai jamais connu les raisons parce que nombreux disent que c'est une maladie héréditaire. Et moi, personnellement, si je regarde bien ma famille, personne n'a jamais été atteint de cette maladie. Alors, j'avais du mal à croire que c'était une maladie qui me venait des parents ou d'arrière-parents. Alors j'ai commencé à penser que c'était une maladie qui provenait des facteurs environnementaux qui m'avaient attaqué, c'est ça.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez perdu espoir carrément dans la vie?
Quand j'avais appris la nouvelle, j'étais vraiment, vraiment choquée. Je peux dire que j'avais perdu espoir tout au début. Je me sentais exclue du monde. Je me sentais différente des autres femmes. J'ai pensé que c'était la fin. Mais Dieu merci, j'ai un mari qui me soutient toujours et qui a toujours été là pour moi. Il me donne l'espoir de vivre, même quand je n'ai pas besoin de croire que je peux encore vivre et être heureuse. Il me réconforte et j'ai dit merci à Dieu pour ça.
Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes malade?
Bon, si vous me voyez, je suis d'abord normale, comme toutes les autres.
Est-ce que de temps en temps, vous avez des douleurs relatives à cette maladie?
Oui, des douleurs, oui, il y en a. C'est la raison même pour laquelle je prends mes médicaments. Il y a des douleurs des fois au niveau des seins, c'est vraiment intense. Parfois, ça me dérange et je me sens vraiment bizarre. Mais quand je prends mes médicaments, ça va, la vie évolue.
Voilà. Alors, recevez-vous des soins? Si oui, lesquels?
Oui, je reçois des soins depuis que j'avais appris que j'étais atteinte de cette maladie. Mon médecin m'avait prescrit quelques traitements. Par rapport à notre région ici en RDC, précisément au Nord Kivu, comme la vie c'est un peu compliqué, il y a des guerres par-ci par-là, alors me procurer vraiment des médicaments, c'est un peu difficile. Mais quand même, Dieu fait grâce, je reçois quelques traitements palliatifs donc qui m'aident juste à calmer mes douleurs. Je continue avec ces traitements-là en attendant qu'un jour, peut-être, je trouverai assez d'argent et je pourrai me procurer des médicaments pour enfin traiter la maladie comme il faut.
Pour combattre le cancer du sein, les femmes se mobilisent. C'est le cas de la Camerounaise Virginie Bobda Kontchou qui préside l'association Run for a Cure Africa Cameroun. Depuis 3 ans, elle organise au Cameroun des tests de dépistage et des séances d'information pour aider ses compatriotes à faire face à la maladie. Voici les précisions qu'elle nous a données depuis Houston, au Texas, ici aux États-Unis.
En fait, ce que nous faisons, c'est des campagnes de dépistage gratuites. Nous demandons aux femmes de venir se faire dépister parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de femmes mouraient en Afrique de manière gratuite. Parce que je dis gratuite parce que très souvent, elles ne savaient même pas de quoi elles mouraient. Voilà quoi, on avait donc une boule dans le sein ou une petite plaie dans le sein et on ne se rendait pas compte que c'était un cancer du sein. Donc depuis 2009, nous sommes installés au Nigeria et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les femmes n'avaient pas d'informations, elles ne savaient pas qu'elles mouraient du cancer du sein. Donc nous avons des campagnes de dépistage gratuites, un peu dans le modèle que nous avons ici aux États-Unis également, avec Susan J. Comens. Donc les campagnes sont gratuites, comme je le disais tout à l'heure, les femmes viennent et puis on leur permet d'avoir déjà une petite visite gynécologique. Et depuis l'année dernière, 2016 au Cameroun, on leur permet également d'avoir un frottis cervical. Et beaucoup n'ont pas, n'y pensent pas déjà. Et puis financièrement, c'est pas évident d'aller faire un check-up annuel pour voir si tout est bien dans son organisme. Quoi. Donc on leur permet d'avoir accès à cette visite médicale-là déjà. Mmh.
Et qui sont vos bénéficiaires? C'est toutes les femmes en général ou vous ciblez parmi les femmes?
En fait, notre cible principale, ce sont les femmes défavorisées. Vous vous rendez bien compte que s'il faut s'occuper de tout le monde, ça ne va pas être évident. Donc, notre cible, quand on fait nos campagnes, on demande aux femmes qui n'ont pas accès financièrement à ces check-up annuels à devenir, qu'on leur permet au moins d'avoir ce check-up. Mais on s'est rendu compte également que même les femmes éduquées n'avaient pas accès à la bonne information. Donc du coup, on se rend compte que beaucoup de gens de notre communauté ne savent pas ce que c'est que le cancer du sein. Donc pendant nos campagnes, on ne se limite pas seulement à la campagne de dépistage elle-même, on fait beaucoup de tapage médiatique où on appelle, dont on fait, on travaille avec des médecins spécialisés comme les oncologues. Je citerai ici le docteur Dinabel qui est une très bonne oncologue au Cameroun, qui nous permet donc d'avoir la bonne information parce que dans l'association, nous ne sommes pas des médecins. Donc, on l'appelle, elle vient sur les plateaux télé, les plateaux radio et elle explique à la communauté ce que c'est que le cancer du sein. Et je vous dis, quand elle explique, elle décortique la maladie et on se rend donc compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et moi, comme je vous parle, il y a encore plusieurs années, je ne savais pas ce que c'est que le cancer du sein. Donc, depuis que je suis impliquée dans ce combat, je m'informe également, comme tout le monde, et je me rends compte que j'étais aussi ignorante, comme beaucoup de gens qui sont éduqués dans la communauté.
Alors, Run for a Cure Africa est une activité sportive, à entendre le nom, qui consiste à effectivement à courir. Pourquoi avoir choisi ce sport?
En fait, quand on dit Run for a Cure Africa, c'est courir pour soigner, si on peut un peu expliquer ça en français, c'est parce que le sport, comme nous le savons bien, est un bien. Le sport est bien pour la santé, on le sait tous.
Tout à fait.
Et on recommande, les médecins recommandent à tout le monde de faire du sport parce que ça permet déjà d'éliminer certaines maladies. Parce que quand on fait du sport, on a des problèmes de tension qui peuvent diminuer, il y a des problèmes d'obésité qui peuvent être réglés. Et tous ces facteurs, la tension, l'obésité, ce sont des facteurs qui favorisent en fait le développement du cancer.
Et cela fait 5 ans que vous avez commencé cette association. Quelles sont les difficultés que vous n'arrivez jusque-là à surmonter? Et si vous avez des satisfactions, bien sûr, parlez-nous-en.
Je vais commencer par les satisfactions parce que nous avons depuis 5 ans, donc, pratiquement 3000 femmes qui sont venues vers nous pendant nos campagnes de dépistage. Nous avons pu payer pratiquement 500 mammographies et des échographies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2016, nous avons donné accès à toutes les femmes qui sont venues vers nous, l'accès donc au frottis cervical, parce qu'on s'est rendu compte évidemment que c'était un cancer qui tue également. Donc, on a déjà cette satisfaction de pouvoir changer une communauté. Les gens font attention à ce que nous disons. Quand nous sommes pendant les campagnes, nous faisons les conférences de presse, on appelle les journalistes et... Et les gens sont vraiment attentifs, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de positif. Maintenant, les difficultés, bien évidemment, nous sommes une association à but non lucratif. Nous comptons sur la bienveillance des gens et puis des entreprises locales. Au-delà des difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui, il y a quand même certaines entreprises qui comprennent le bien fondé de notre combat et qui nous accompagnent malgré leurs difficultés financières.
Nous remercions Alice Kavira et Virginie Botta-Conchou pour leur témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. La question de la semaine nous vient de Parakou, au Bénin. Notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Moi, c'est Steve Bocor depuis le Bénin, Parakou. Mon cousin souffre d'une maladie. La maladie est que ça attaque ses testicules. Et cette maladie revient à chaque fois dans le mois d'octobre de chaque année. La maladie se manifeste par le grattage. C'est-à-dire ça se gratte et dans peu de temps, tous ses testicules se transforment en plaies. Et mon cousin arrive à dormir la nuit. Sur ce, nous nous rendons à l'hôpital après les consultations et les prescriptions faites par le docteur. Nous nous constatons que la maladie se calme momentanément et ça se revient encore l'année prochaine, c'est-à-dire dans le même mois d'août. Pour cela, moi, j'aimerais savoir quel est le nom de cette maladie qui attaque les testicules de l'un de mes cousins. Est-ce que c'est une maladie normale ou encore quels sont donc qui ont lancé à mon cousin? Ce sont mes préoccupations, donc j'aimerais que le docteur essaie de les clarifier si possible. Je vous remercie.
Ce que je peux répondre à Steve, c'est que par rapport à la description qu'il fait de cette maladie, une maladie qui intervient très souvent au courant du mois d'octobre, qui se manifeste par des grattages, qui semble très isolée puisqu'elle n'attaque que les parties génitales, ça peut éventuellement être une maladie allergique, une maladie provoquée par une réaction allergique, puisqu'on est en présence quand même d'un phénomène qui survient épisodiquement et qui est très localisé sur le plan corporel. Steve précise également que les prescriptions du médecin ont calmé son cousin, du moins calmé les manifestations pendant quelques temps de façon transitoire, puis en octobre, on se retrouve encore face à cette situation. C'est dommage qu'il n'ait pas précisé ce traitement qui permet de calmer ces manifestations-là, parce que si ce traitement précis par le médecin était un traitement anti-allergique, du moins, on aurait une forte conviction par rapport au diagnostic. C'est pour ça que je vais demander à Steve de se rapprocher de son médecin et de lui demander éventuellement quel est le diagnostic précis qu'il fait de cette maladie-là. Pour ma part, ça semble être une maladie allergique, mais il me manque énormément d'autres éléments pour pouvoir avoir la conviction de cette hypothèse diagnostique.
Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, des observations ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, vous pouvez maintenant regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur notre site web voafrique.com et sur le réseau de nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au cancer du sein, une maladie qui tue plus de 500 000 femmes chaque année. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Adam Ali. Il est cancérologue et président de l'association Afro-Cancer. Il nous a présenté les signes qui permettent de reconnaître la maladie et comment éviter d'en être victime. Nous avons aussi écouté Alice Kavira Mwendapole, une malade du cancer du sein à Beni, en République démocratique du Congo. Elle nous a parlé des manifestations de la maladie et de son traitement. Nous avons également écouté Virginie Botta-Conchou, présidente de l'association Run for a Cure Africa Cameroun. Elle nous a dit ce que fait son association pour combattre le cancer du sein au Cameroun. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Firmin Koyaweda pour sa présentation des événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Mwisi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
Votre santé, c'est votre avenir.
À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. La